Si on regarde le taux de vaccination mondial, on est aux alentours de 40% aujourd'hui, mais c'est distribué d'une manière pas très équitable. On voit qu'en Afrique, il y a moins de 4% de la population qui est vaccinée. Donc, faire plus d'efforts pour vacciner des gens en Afrique, clairement, des mécanismes comme COVAX, c'est très bien. La Belgique donne beaucoup de vaccins. D'ailleurs, on est vraiment un des endroits qui produit le plus de vaccins dans le monde, mais on doit le décentraliser aussi. La Belgique investit avec un partenaire privé au Sénégal, dans une production locale. On est en train de regarder de le faire dans d'autres pays africains aussi. Je suis convaincu qu'avoir plus de capacité de production de vaccins est une bonne chose dans le combat contre la COVID-19, mais est une bonne chose dans le sens large, parce que la vaccination joue un rôle important dans les systèmes de santé au niveau mondial.
Alors, vous avez également parlé de se préparer à la prochaine pandémie, notamment à travers un traité et la réforme de l'OMS. Alors, quels seraient les principaux axes de ce traité et quelles sont les réformes qu'il faut apporter à l'OMS concrètement?
C'est clair que la pandémie de COVID-19 n'est pas terminée, mais on doit se préparer à une éventuelle prochaine. Là, on a quand même vu que l'OMS n'est pas adaptée aujourd'hui à ce genre de pandémie, ce genre de pandémie qu'on ne connaissait pas jusque maintenant, et que donc l'exercice de ce qu'on appelle fit for purpose, donc de rendre l'OMS plus efficace et plus rapide dans ce genre de situation, est clairement une priorité et figure dans ce traité de pandémie.
Quand vous dites plus efficace, concrètement, il y a des aspects particuliers qu'il faut peaufiner.
Clairement, la capacité au niveau local de mieux suivre et mieux identifier quand il y a une pandémie potentielle, ça c'est un premier élément. Deuxième élément, clairement, c'est de mieux guider les pays au niveau national dans leur gestion de la pandémie. Je pense qu'on a tous appris beaucoup de choses par rapport à comment gérer une pandémie. Maintenant, centraliser ces connaissances et les traduire dans nos systèmes de santé est la chose à faire. Ce qu'on a appris, on doit maintenant l'implémenter dans notre gestion quotidienne.
Dans ce traité, vous avez mentionné la résilience des systèmes de santé. Ça veut dire quoi exactement? Qu'est-ce qu'il faut faire pour les rendre plus résilients, plus accessibles?
Ce qu'on a vu, c'est que dans des situations comme des pandémies, c'est qu'on doit avoir la capacité d'aider beaucoup de gens à un moment où on ne l'attend pas toujours, et donc d'avoir des systèmes où on peut faire, comme on dit en anglais, scalability, hein. Donc on doit pouvoir s'étendre rapidement en utilisant des partenaires tiers, en utilisant des nouvelles technologies, en regardant comment on peut gérer aussi la gestion quotidienne, la gestion normale des soins de santé. Je pense que les mois précédents, on a tous expérimenté beaucoup dans ce domaine. On a eu des expériences qui étaient bonnes, on en a eu qui étaient mauvaises. Maintenant est le moment pour traduire cela et garder ces éléments dans nos systèmes de santé.
Alors, vous avez évoqué une deuxième vulnérabilité, le climat. Vous dites qu'il faut foncer vers l'objectif de 1,5 degré, s'investir de plein gré dans cette lutte contre le changement climatique et contribuer les 100 milliards de dollars au fonds. Vous y voyez une opportunité économique. Alors, comment fait la Belgique pour arriver à cette transformation et contribuer à celle des autres?
La Belgique est un petit pays au niveau mondial. On est convaincu, la population belge est convaincue qu'on va changer notre modèle économique qui doit devenir plus durable parce que on ne peut pas se permettre à continuer à émettre des gaz à effet de serre. Mais certains pourraient dire, mais un petit pays comme la Belgique, qu'est-ce que ça va changer au niveau mondial? Au niveau mondial, c'est vrai que notre taille a un impact là-dessus, mais ce qui peut changer au niveau mondial, c'est notre technologie. Si on développe en Belgique ou en Europe des technologies qui sont précurseurs et qu'on les exporte dans le reste du monde, là, on a une influence. Et donc, changer notre mode de vie en soi, l'impact sera faible au niveau mondial, mais la technologie et les modèles de vie et économiques qui se développent, exporter cela, là, on peut avoir un impact et là, ça peut être un élément économique important pour exporter notre connaissance, notre technologie, etc.
Vous avez déjà des exemples en cours d'adaptation et de technologies développées qui sont mises en œuvre?
Oui, clairement, les éoliennes dans la mer, la Belgique est le quatrième pays mondial, et sachant qu'on est quand même un assez petit pays avec une côte qui est quand même assez réduite, on a l'ambition de doubler encore notre capacité. Il y a toute une industrie qui s'est créée en Belgique autour de cela et qui est aujourd'hui active dans le monde entier pour installer plus d'éoliennes aux côtes partout dans le monde.
Alors, un des dossiers qui a été assez présent lors de cette assemblée, c'est la situation en Afghanistan, notamment par rapport à la crise humanitaire et aux droits humains, ceux des femmes et des filles particulièrement. Alors, comment faire? Est-ce qu'il faut rendre l'aide, qui est donc absolument nécessaire face à la crise humanitaire, conditionnelle pour justement sauvegarder ou tenter de préserver les droits des femmes et des filles qui sont d'ailleurs déjà bafoués?
Oui, clairement, la dernière chose maintenant, c'est qu'on tourne notre dos vers la population afghane, une population afghane qui est très, très pauvre, où les droits des filles et des femmes sont clairement pas respectés. Toute l'idée de Taliban 2.0 n'a pas duré longtemps. Et je suis convaincu que le système onusien est la bonne méthode de le faire. Des organisations comme UNICEF qui sont sur le terrain peuvent continuer à éviter que le droit des enfants soit, par exemple, encore plus réduit. Donc, je suis convaincu que c'est ça la manière de continuer à aider la population. On doit être aux côtés de la population afghane.
Mais est-ce qu'il y a moyen de faire pression? Comment est-ce que l'UNICEF, par exemple, peut sauvegarder ou préserver les droits des filles si elles ne peuvent pas se rendre après un certain âge à l'école? Est-ce qu'on doit rendre cette aide conditionnelle? Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement?
C'est clair qu'on doit rentrer dans un dialogue avec les Afghans au niveau large et être très clair par rapport au respect des droits de l'homme. On continuera à faire un monitoring pour être sûr que les choses qui se passent soient bien suivies. Mais en même temps, il faut regarder comment on peut, dans les semaines qui viennent, concrètement aider la population. Être aux côtés de la population, ça doit être notre première priorité d'un point de vue d'aide humanitaire, mais aussi d'un point de vue de garder les écoles ouvertes, garder les systèmes de santé, etc. Et puis, il faut un dialogue politique où clairement la communauté internationale doit mettre beaucoup de pression sur l'autorité afghane.
L'autorité évoque une différence culturelle ou de tradition face aux politiques qu'ils appliquent face aux femmes et aux filles. Quelle est la réponse?
Mais il peut y avoir aucun relativisme culturel par rapport aux droits de l'homme. Les droits de l'homme sont universels et s'appliquent de la même manière partout dans le monde et sont les mêmes pour chaque personne. Il n'y a aucun lien culturel par rapport à cela. Ce n'est quelque chose qu'on ne peut pas accepter.
Et finalement, en matière de sécurité, on voit que les groupes affiliés à Daesh sont désormais à travers tout le continent africain, de l'ouest à l'est et vers l'Austral aussi. Ils sont également en Asie centrale. Que faut-il faire? Quelle approche prenez-vous face à cette situation?
Mais la Belgique est très active dans ce domaine. Nous sommes actifs et du côté du développement et du côté sécuritaire, par exemple dans la région du Sahel. Stabiliser un pays, les forces d'ordre doivent jouer un rôle, mais aussi le développement. Il doit jouer un rôle, par exemple, à travers le PNUD, etc. Et donc, la Belgique est active dans les deux domaines et on continuera à l'être parce que stabiliser la situation dans le monde est une priorité pour nous et puis aussi parce que ça peut avoir un impact grave sur l'Europe, par exemple, avec des flux de migration non contrôlés, avec tous les abus qu'il peut y avoir dans ce genre d'activité.
Il faut accélérer le développement, les programmes d'aide au niveau local.
Oui, clairement, on doit continuer les programmes de développement, mais c'est aussi naturellement, on le fait en partenaire. Le développement, c'est quelque chose où les pays travaillent ensemble, mais où naturellement la volonté de la politique et de la société civile locale joue un rôle important. Sans l'appui au niveau local, c'est très, très difficile d'avoir un progrès qui soit durable.
Et vous pensez, l'extension s'est beaucoup accélérée au cours des dernières années. Est-ce qu'il y a une réponse justement du côté développement qui peut être apportée dans un délai suffisant?
Oui, c'est clair. Le développement est la seule manière durable d'améliorer le sort de la population. Mais naturellement, il y a des conditions de base. Une des conditions de base, c'est que naturellement, la sécurité soit garantie, que l'enseignement puisse fonctionner, les systèmes de santé puissent fonctionner. Donc, je suis convaincu que sécurité et développement vont main en main. C'est parfois deux mondes un peu différents. Mais pour vraiment avoir un impact, il faut faire les deux en parallèle.
Dernière question, l'Assemblée arrive à sa fin. Comment s'est-elle passée pour vous? Avez-vous noté un engagement? Pouvez-vous nous donner un peu votre bilan?
Je pense que d'abord, c'était bien que ça a eu lieu et que ça a eu lieu en personne. On sent qu'il y a quand même un besoin pour se parler au niveau mondial. Les défis sont énormes et on voit que le combat contre le réchauffement climatique est quand même vraiment poussé vers le haut de l'agenda chez tout le monde. Et donc, c'est un pas important vers la réunion de COP26 à Glasgow dans quelques semaines. Mais d'un autre côté, par rapport à COVID, il y a encore beaucoup, beaucoup de travail. En conclusion, ce qu'on voit, c'est que plus que jamais, on est confronté à des défis mondiaux. Et plus que jamais, il n'y a aucun pays tout seul qui peut apporter une solution à ces défis mondiaux. Et donc, l'importance du multilatéralisme a bien été confirmée durant cette Assemblée générale.
Et l'engagement aussi?
Et l'engagement, on pourra toujours pointer du doigt certains qui se distancient du multilatéralisme, mais en global, on voit que le multilatéralisme est la solution et qu'énormément des pays s'appuient dessus.
Merci beaucoup.
Avec plaisir.